RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'herbe suivante, comme d'habitude, vous allez écouter magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. On commence par le titre. Le président Jokowi célèbre l'Eid al-Fitr 1439 Hijri à Bogor. Le président Jokowi a dit que la politique de l'Indonésie à la Palestine n'a pas changé. Le Kazakhstan demande à la République d'Indonésie, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, de renforcer la stabilité mondiale. Le groupe de ministres des Finances de 10 pays attirera à Banyuwangi. Et les citoyens indonésiens sont élus membres du Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation Nations Unies. Voici le journal complet. Après avoir été à Aceh, Padang et Jakarta, cette fois-ci, le président de l'Indonésie, Joko Widodo, va célébrer l'Eid al-Fitr 1439 Hijri à Bogor, Java de l'Ouest. L'Eid al-Fitr 2018 sera également mené par le président avec la communauté environnante. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo au palais présidentiel de Bogor, à Java de l'Ouest, mercredi le 13 juin. En plus de la prière de l'Eid à Bogor avec la communauté environnante, le chef de l'État invite également le public à la fête de l'Eid al-Fitr 1439 Hijri au palais présidentiel de Bogor. La deuxième nouvelle, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que la politique de l'Indonésie vis-à-vis de la Palestine n'a pas changé. L'Indonésie restera toujours avec les Palestiniens. Cela a été confirmé par le président Joko Widodo dans sa déclaration au palais présidentiel Bogor, Java de l'Ouest, mercredi le 13 juin. Le président a donné des instructions à la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, pour donner la priorité à la question de la Palestine tant que l'Indonésie devient un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation Nations Unies. Le président a affirmé que l'élection de l'Indonésie pour être membre du Conseil de sécurité de l'Organisation Nations Unies devait également bénéficier au peuple palestinien. Lié à la visite d'un membre du Conseil consultatif présidentiel, Yahya Khalil Stadkouf, en Israël, selon le président, c'est une affaire personnelle. La troisième nouvelle, l'ambassadeur du Kazakhstan en Indonésie, Askat Orasbey a demandé à l'Indonésie de renforcer la stabilité mondiale après avoir été élu à un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 à 2020. Dans sa déclaration écrite à Jakarta, l'ambassadeur Orasbey a récemment déclaré que l'Indonésie occupait pour la quatrième fois un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Cela prouve le rôle important de Jakarta dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité mondiale. Comme l'a indiqué par Antara, l'Indonésie est devenue l'un des contributeurs au maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. L'Indonésie était un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les périodes 1973 à 1974 et 1995 à 1996 et 2007 à 2008. L'Indonésie remplace le Kazakhstan qui représente aujourd'hui la région Asie-Pacifique. La période d'adhésion du Kazakhstan se terminera le 31 décembre 2018. La quatrième nouvelle. L'avion transportant un groupe de ministres des Finances de 10 pays participant à la réunion annuelle du Fonds monétaire international ou du FMI et de la Banque mondiale qui se tiendra à Bali en octobre atterrira à l'aéroport de Banyuwangi, Java de l'Est. Le président du PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, lors d'une rencontre avec le ministre du Tourisme indonésien, Arif Yahya, El Régent de Banyuwangi, Abdullah Azwar, Anas, à Banyuwangi, mercredi, le 13 juin, a indiqué que 17 000 délégués assisteront à cette réunion annuelle. En outre, le Régent de Banyuwangi a déclaré que le gouvernement local était prêt à soutenir le gouvernement central pour succéder au grand programme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même, il a approuvé l'utilisation des bâtiments de salon VVIP dans la zone de l'aéroport pour devenir le terminal des vols internationaux. Comme l'a rapporté par Antara, Banyuwangi est également désigné comme une zone touristique proposée aux délégués des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du monde entier. La dernière, les Nations Unies ont choisi un citoyen indonésien, Risnawati Utami, comme un membre du Comité des droits des personnes handicapées pour la période 2019 à 2022. C'était le communiqué de presse du bureau du représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, cité par Antara à Jakarta, mercredi, le 13 juin. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Dian Triansyah Djani, a apprécié mercredi le succès de la diplomatie indonésienne. Parce que, pour la première fois, un citoyen indonésien a été élu comme membre du Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies. Risnawati est une activiste et fondatrice de l'organisation non gouvernementale Harapan Nusantara qui est engagée dans les droits des personnes handicapées. L'ambassadeur Triansyah Djani a déclaré que l'élection Risnawati en tant que membre du comité a été le résultat des efforts du gouvernement dans le domaine de l'application des droits de l'homme, en particulier les droits des personnes handicapées et la forme de la confiance de la communauté internationale dans la capacité et l'expérience Risnawati. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, nous continuons notre programme avec le commentaire et pour le titre « La rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord commun avec l'Iran. Le monde vient d'assister à une réunion entre les dirigeants américains et nord-coréens il y a 3 jours, à Singapour, qui sera un record historique. Pourtant, quelques mois plus tôt, le président américain Donald Trump et le chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est encore en guerre de mots. L'un des accords de la réunion était la dénucléarisation de la Corée du Nord. Han Pei a immédiatement averti à la Corée du Nord de ne pas nécessairement croire à ce que les États-Unis proposaient. Le porte-parole du gouvernement iranien, Mohammad Bakher Nubah, a lancé cet avertissement mardi le 10 juin. Selon lui, Trump aurait pu unilatéralement annuler l'accord. Ceci est basé sur l'expérience de l'accord nucléaire américain et de certains des alliés de l'Europe avec l'Iran il y a quelque temps. Le plan d'action global conjoint, ou JCPOA, à savoir l'accord sur le programme nucléaire iranien convenu à Vienne le 14 juillet 2015 par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, tels que la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, plus l'Allemagne et l'Union européenne, ont laissé juste comme ça par les États-Unis. Trump a déclaré le 8 mai 2018 l'Amérique se retirera de cet accord. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a procédé à une inspection minutieuse et a déclaré que l'Iran mettrait en œuvre ce qui est prévu dans le plan d'action. La sortie américaine de l'accord n'a duré qu'un mois avant que Donald Trump rencontre Kim Jong-un. Pas étonnant que l'Iran soit furieux de la décision américaine. Les alliés américains en Europe, menés par l'Allemagne et la France, tentent toujours de convaincre les États-Unis de rester dans cet accord, mais il semble que les États-Unis s'en tiendront à leur décision. L'Europe a alors accepté de garder JCPOA sans les États-Unis. Donald Trump semble déçu non seulement de la substance de JCPOA, mais aussi de l'attitude de l'Iran. À une occasion en octobre 2017, Donald Trump a une fois invité à rencontrer le président iranien Hassan Rouhani lorsqu'il était présent à l'Assemblée générale des Nations Unies. Malheureusement, l'Iran est moins satisfait de la réunion. Donald Trump est-il contrarié par ce rejet et se retire de l'accord? Malgré les problèmes de l'Iran, le monde attend maintenant la réalisation d'une paix dans la péninsule coréenne. De notre côté, l'Indonésie, qui siégera en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU 2019-2020, peut proposer de résoudre le problème nucléaire iranien. L'Indonésie est également la communauté internationale espère certainement que les États-Unis et l'Iran pourront discuter pour résoudre le problème nucléaire iranien. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 15 juin 1979, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé SALT II. L'accord de SALT II, qui limitait la production et le stockage des armes nucléaires, a été signé par le président de l'Union soviétique, Leonid Brezhnev, et le président américain Jimmy Carter le 15 juin 1979. En 1972, les deux grands puissants avaient signé un accord SALT I sur des accords pour réduire le nombre d'armes nucléaires, mais les deux pays ne s'engagent jamais à l'accord qui se font eux-mêmes. Le 15 juin 2010, l'Organisation de coopération de Shanghai, déclarée par la République populaire de Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, est une organisation intergouvernementale de la région Eurasienne de la République populaire de Chine, de la Russie, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan et Ouzbékistan. sauf Ouzbékistan, tous les autres pays auparavant étaient les membres de Shanghai Five, fondé en 1996. OCS a été déclaré 15 juin 2001 après l'adhésion de Ouzbékistan. Cette organisation vise à renforcer la coopération entre les pays dans le domaine des frontières, de l'économie et de la culture. Beaucoup de partis ont dit que cette organisation est un contrepoids des forces des organisations de l'OTAN et des États-Unis. OCS a évité l'ingérence américaine en Asie centrale par la coopération frontalière et militaire. L'Inde, l'Iran et la Mongolie, et aussi le Pakistan, ont été acceptés en tant que pays observateurs dans OCS en 2005. La première commémoration de la Journée mondiale de la dengue de l'ASEAN a lieu au Musée national Jakarta le 15 juin 2011. La dengue est l'affaire de tous et le slogan qui a été lancé à cette époque, la déclaration de Jakarta contre la dengue, a été accordée par les 10 pays de l'ASEAN qui étaient présents. L'essence de l'accord est la dengue est incluse dans l'une des maladies contagieuses prioritaires. Ce document est une étape historique parce que l'année suivante, la journée de la dengue de l'ASEAN a tenu au Myanmar qui a publié Myanmar appelé à l'action dont le contenu soutient la déclaration de Jakarta, invite tous les partis à continuer à lutter contre la dengue. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous. Voici mon Indonésie dans le titre. Ciblée, les 10 premières grandes économies du monde, l'Indonésie est entrée dans la révolution industrielle 4.0. Le gouvernement fixe l'objectif de l'Indonésie d'être inclus dans les 10 plus grandes économies du monde en 2030, ce qui correspond à l'une des aspirations nationales de la feuille de route « Faire d'Indonésie 4.0 » comme stratégie de mise en œuvre de la 4e révolution industrielle. C'est ce qu'a déclaré lundi par le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, dans une déclaration écrite à la presse à Jakarta. Selon le ministre, la feuille de route devient également un agenda national qui doit fonctionner en synergie. Le ministère de l'Industrie va collaborer avec le ministère et l'organisation, le gouvernement régional et aussi les hommes d'affaires industriels à mener ensemble ce programme stratégique dans le but de la réussite et du progrès de la nationale indonésienne. Airlangga Hartarto a reconnu que la réalisation de la cible du top 10 de l'économie mondiale ne suffit pas à compter sur la croissance économique organique. Il prend une percée dans le domaine de l'industrie en utilisant les derniers développements technologiques et les 5 technologies clés Les 5 technologies clés qui soutiennent la mise en œuvre de l'industrie 4.0 sont l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'interface homme-machine, la technologie robotique et la technologie d'impression 3D. Airlangga a affirmé que la maîtrise de la technologie devient le déterminant clé de la compétitivité. En tant que concepteur de Making Indonesia 4.0, le ministre Airlangga a déclaré que la révolution industrielle 4.0 remanierait le flux de la production industrielle conventionnelle d'une manière inhabituelle. Néanmoins, il croit qu'il y aura une augmentation de la productivité et de la qualité de manière efficace. Il revitalisera l'industrie manufacturière nationale. Ceci est plus rapide que l'évolution de l'économie indonésienne, qui reposait auparavant sur les ressources naturelles, à savoir le pétrole et le gaz, et l'exploitation minière à une économie basée sur la fabrication à forte valeur ajoutée. Erlangga Hartarto a déclaré que la mise en œuvre de l'industrie 4.0 en Indonésie est censée être en mesure d'apporter la croissance économique nationale d'une manière inclusive impliquant tous les niveaux de couches de la société. La raison, l'ère de l'économie numérique a également ciblé le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Pendant ce temps, avec l'utilisation de la technologie d'Internet, il existe une demande croissante de nouveaux types d'emplois, tels que les gestionnaires et les analystes des données numériques, et les professions qui peuvent opérer la technologie robotique pour le processus de production industrielle. Le nouvel emploi devrait atteindre 10 millions de personnes en 2030. Voilà mon Indonésie.
Show the world.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province de Gorontalo, à Sulawesi, afin de connaître l'artisanat Karawo. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Karawo vient de la langue Gorontalo qui signifie brodé à la main. Karawo est un artisanat qui décore différents types de tissus avec une variété de motifs de broderie transparents, travaillés sur le tissu en utilisant des fils unis ou multicolores. Le processus de fabrication de cette broderie Karawo consiste à trancher et tirer le fil de fibre textile qui a été bordé, et ensuite avec une aiguille et avec une large gamme de fils selon le motif ou la conception de motif désiré à la main. Pour faire un motif de broderie Karawo, il faut trois personnes avec des tâches différentes. La première personne est une personne sert comme une trancheuse ou un fil sur le tissu qui sera fait la broderie Karawo selon le modèle étant fait. La troisième personne sert comme un brodeur de tissu qui a été analysé. Le processus de broderie dure d'une semaine jusqu'à un mois selon le motif et le type de tissu. Il existe deux types de broderie Karawo. La broderie traditionnelle Karawo et la broderie de cravate Karawo. La broderie de cravate Karawo est plus chère que la broderie Karawo ordinaire parce que le fil à broder doit être cousu cravate entre les fibres de filet de sorte que la broderie est plus forte. Le processus de fabrication de la broderie Karawo est fait par les femmes au foyer dans les villages. L'artisanat Karawo est celle typique Gorontalo qui existe depuis longtemps, d'environ les ans 1600. Les gens hors de Gorontalo appellent Karawo avec Karawang. Karawo est né dans un long processus qui est le fruit de la persévérance des artisans. L'art de faire Karawo ou Krawang s'appelle Makarawo. Cet art a été transmis de génération en génération depuis l'époque du royaume de Gorontalo qui était encore triomphant. La beauté du motif, l'unicité de l'exécution et la bonne qualité est très importante dans la fabrication de Karawo. Karawo ou Krawang possède une très grande valeur. Il n'est pas surprenant si l'unicité et la qualité sont en demande de beaucoup de gens, à l'intérieur et à l'étranger. La manière unique de faire de beaux motifs et de la bonne qualité est l'attraction de la broderie Karawo. L'un des motifs célébrés est le tissu de SBY, ainsi nommé parce qu'à l'époque de l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono a visité Gorontalo. Il a porté le tissu de broderie. Le prix des broderies Karawo est environ 500 000 rupiah et plus, selon le type de tissu utilisé. La broderie Karawo peut aussi être faite en fan avec le prix de 30 000 rupiah. Et certaines sont également fabriquées avec un capot avec un prix d'environ 75 000 rupiah. Mmh. Jeremy, c'est le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous et au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Serviteurs, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur pour ce soir et en pour titre la journée de la dengue de l'ASEAN. L'ASEAN est l'organisation qui a lancé l'établissement de la journée de la fièvre hémorragique de la dengue. La journée de la dengue hémorragique de l'ASEAN est officiellement commémorée depuis le 15 juin 2010. Dans l'ASEAN, l'Indonésie est le pays avec le plus grand nombre de patients atteints de dengue. La commémoration de la journée de la dengue hémorragique de l'ASEAN a pour objectif de sensibiliser le public au danger de la maladie de la dengue sur une base durable. La dengue est un trouble du faisceau sanguin, capillaire et du système de coagulation du sang humain causé par une infection virale. La DBD est trouvée beaucoup dans les zones tropicales et subtropicales. La maladie est également asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de symptômes évidents, de sorte qu'il y a souvent un mauvais diagnostic avec d'autres maladies, en particulier la grippe et la typhoïde. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, l'Asie-Pacifique représente 75% des cas de dengue dans le monde entre 2004 et 2010, tandis que l'Indonésie est le deuxième pays avec le plus grand cas de dengue parmi 30 pays endémiques. Dans le but de réduire le nombre de décès dus à la dengue en Indonésie, Eliminate Dengue Project ou EDP, Yogyakarta a mené un projet de recherche appelé Wolbachia. Ce projet de recherche utilise des bactéries naturelles Wolbachia pour inhiber le développement du virus de la dengue dans le corps du moustique. Les œufs de moustique qui contiennent déjà les bactéries sont répandus dans les maisons des habitants de la ville de Yogyakarta. Selon le chef du contrôle de la maladie et de la santé environnementale, du Bureau de la Santé de la ville de Yogyakarta, Yudria Amelia, les cas de dengue à Yogyakarta en 2018 ont diminué. Jusqu'en mai 2018, il y avait 40 cas de dengue. Ce chiffre est inférieur à la même période l'année dernière qui a atteint 350 cas. La dengue hémorragique ou DBD est l'une des maladies transmises par les moustiques Aedes aegypti. Non seulement en Indonésie, la maladie est une préoccupation dans d'autres pays tropicaux. C'est ce qui a poussé les pays de l'ASEAN à déterminer la date du 15 juin comme la journée de la dengue de l'ASEAN. En 2018, la journée de la dengue de l'ASEAN commémorera avec le thème « La communauté de l'ASEAN unie contre la dengue ». Dans le but de sensibiliser le gouvernement et la communauté à l'importance des mesures de contrôle et de prévention de la DBD. Serviteurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie du monde entier. On se retrouve dans le programme du magazine musical. Afin de célébrer le Eid al-Fitr 1439 Hijriah, nous allons présenter des chansons indonésiennes nuancées le jour de l'Eid. Pour commencer notre édition aujourd'hui, nous allons vous présenter la chanson intitulée « Lagu Lebaran » par Atta Halilintar et Crystal Opera, dont le genre est hip-hop. Cette chanson parle de quelqu'un qui veut rentrer à la maison pour célébrer le jour de l'Eid avec sa famille. Il a également imaginé l'atmosphère du jour de l'Eid, comme manger de ketupat ensemble et se serrer la main pour le pardon. Voici la chanson d'Atta Halilintar et Crystal Opera. Restez avec nous à www.voinews.id.
Small city kid with the biggest dream alive. Suksesku macam printer selalu cetak sejarah. My father always say kalau sukses jangan sombong, bikin bangga semua. Now I bring food on the table.
Yeah, I'm on my way, I'm going home. Yeah, I'm on my way, I'm going home.
Aku super fly, superman, super humble, super duper. Fini fini Fiji, aku pulang Idul Fitri boy. Makan ketupat bareng keluarga.
Mohon maaf lahir batin gua banyak salah boy.
No Disneyland,
no Disneyland,
no excuse,
no excuse.
Just bring me home,
just bring me home,
I'll be alright.
Just bring me home, I'll be alright. Just bring me
macam ini hari ulang tahunku. So happy mudik tahun ini kumpul semua. Baju baru,
NASCAR.
Mobil baru,
NASCAR.
Handphone baru,
NASCAR.
Pacar baru,
NASCAR.
Jalan di tol, santai aja. Ngapain ngebut-ngebut. Gua mau lebaran. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Banyak orang cakap kelewat. Mereka harus putar balik. Ini hari lebaran. Jadinya aku malas.
Just bring me home, I'll be alright. Just bring me home.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Atta Halilintar, et Crystal Opera, dont le titre est La Goule Baran, qui signifie la chanson du jour de l'aide. Ensuite, nous allons écouter la chanson chantée par Elva Singer, s'intitule Selamat Hari Lebaran, qui signifie Bonne fête de l'aide El Fitr. Au jour de l'aide, les gens sont également invités à la sincérité et purifier le cœur après un mois de jeûne. Et aussi, les musulmans se réunissent avec des parents et des amis et se pardonnent entre les uns et les autres. Cette chanson nous représente aussi de la voix de l'Indonésie aux musulmans dans le monde entier. Bonne écoute!
Salam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama.
Selamat Hari Lebaran, minnal aidin wal
ucapkan syukur kehadiran ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia.
Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin.
Sama sanak keluarga, tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia.
Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin.
Voilà la chanson s'intitule Selamat Hari Lebaran ou Bonne Fête de l'Aide El Fitr par Elva Singer. La chanson suivante à écouter est chantée par Denny Malik, Yanni Libel, Puput Novel et Betaria Sonata, dont le titre est Bonne Fête de l'Aide El Fitr. Bien que le titre soit même que celui chanté par Elva Singer et d'autres musiciens, la chanson de Denny Malik, Yanni Libel, Puput Novel et Betaria Sonata, dont le titre est Selamat Hari Lebaran, est tout à fait différente. Dans les paroles, on décrit que les gens de toutes les directions vont à la ville et ils portent de nouveaux vêtements. Le but des paroles de cette chanson est de célébrer la fête de l'aide qui décrit également la prospérité de la société. Chers auditeurs, voici Bonne Fête de l'Aide.
Thank you. telah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira.
Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran.
30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua untuk menyambut.
Bon, chers auditeurs, nous terminons le magazine musical dans l'édition d'aujourd'hui et l'Eid al-Fitr 1439 Hijriah. Écoutons la chanson s'intitule Ketika Lebaran Tiba, qui signifie Quand le jour de l'Eid est arrivé, par Hedi Yunus. Pour tous les musulmans du monde entier qui célèbrent aujourd'hui la fête de l'Eid al-Fitr, nous disons Eid Mubarak, bonne fête de l'Eid al-Fitr de 1439 Hijriah. Bonne écoute et à la prochaine!
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
Allah, 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 All terasa berlalu sebulan lamanya dari pagi hingga petang menjalankan perintahnya.
Suci Ramadan
ketika hari Lebaran tiba, semua kembali kepada fitrahnya. Ketika hari kemenangan tiba, bersuka cita dan bergembira, saling berpapan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi, saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki ketika Lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Dosa terlarang. Tiada lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Sudahlah yang berkuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang. Tiada lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran mencari kemenangan di bulan suci Ramadan.
Di bulan suci Ramadhan menahan lapar dan dahaga, menjauhi larangannya. Tanpa terasa berlalu sebulan lamanya dari pagi hingga petang jalan menahan perintah
suci Ramadan.
Suka cita dan oh, saling bermaafkan, saling berjabat tangan, saling bertutur kata, bersilaturahmi, saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki ketika Lebaran tiba, bersih selalu di hati. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki Lebaran tiba, bersih selalu di hati. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan, saling bertukar kata, bersilaturahmi. Saling bermaafkan, saling berjabat tangan. Tak ada rasa dengki ketika Lebaran tiba, bersih selalu di hati.
Dosa terlarang. Tiada lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Sudah lamanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang. Tiada lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Lamanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang. Tiada lelah menjalankan ibadah patuh pada ajaran mencari kemenangan di bulan suci Ramadan. Lamanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa terlarang.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.